Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Aurélie Billot. Oh, excusez-moi, il faut que je recommence. Oh, c'est compliqué, Aurélie Billot. Excuse-moi. Vas-y, pardon.
Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, je reçois aujourd'hui Aurélie Billot, directrice commerciale Habitat de France de Mathieu et Barre Bâtiment. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Bon, on va pas se cacher vis-à-vis des auditeurs, nous avons fait un très très beau projet ensemble il y a quelques années, n'est-ce pas?
On ne verra pas.
Et donc du coup, je voulais un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'être une femme ingénieure, responsable commerciale dans une grosse boîte du bâtiment? Est-ce que, quelle que soit la boîte, est-ce que c'était mieux il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, le plafond de verre commence à légèrement se fissurer ou pas du tout?
On va rester optimiste, on pense que c'est toujours mieux maintenant qu'avant. Le plafond de verre se fissure tranquillement, on va dire. Mais ça arrive, puisque effectivement, il y a quand même quelques femmes à des postes importants, ça commence. Voilà, donc il faut espérer que pour, au fur et à mesure, les compétences soient de plus en plus reconnues. Notre travail reconnu, pas seulement juste un genre, on va dire comme ça, et voilà, on va espérer que ça arrive.
Alors, je sais que beaucoup de femmes dans nos métiers se battent pour effectivement. Alors, j'ai l'impression que quand même chez les archis, en tout cas dans les écoles, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans les agences, il commence à y avoir une certaine parité, surtout dans la génération des 30-40. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, c'est-à-dire vraiment dans les entreprises du BTP, on a encore cette difficulté à faire confiance ou à, alors que au niveau commercial, bah ok, on pourrait très bien dire allez, au niveau technique, bon non, mais je fais exprès d'être un peu outrancière, mais qu'est-ce qui fait que le déclic n'est pas encore fait?
Ah, ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question.
Non, mais
je
quand
suis
même,
convaincue.
T'as bien une opinion.
Moi effectivement je pense que de toute façon il y a des postes qui sont là tenus par des gens depuis quelques temps. Il faut que les choses se fassent.
C'est-à-dire qu'il faut les envoyer à la retraite, c'est ça?
J'oserais pas le dire comme ça, mais
non,
voilà.
Mais moi,
ça,
je peux me permettre. Hein.
Mais ça va. Voilà. Je pense que ma génération va prendre effectivement plus en plus d'ampleur, et j'espère que celle d'après pourra enfin accéder à des postes un peu plus importants.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'une manière pédagogique, on va dire, comme accompagnement pour que ça se passe d'une manière plus fluide? Parce qu'au fond, peut-être qu'il y a... bon, les études sont les mêmes, hein, t'es ingénieur ESTP, bon voilà, on en connaît plein. Donc bon, on est ingénieur ESTP, on sort de l'ESTP, on rentre dans une grosse boîte. À l'époque, on s'est rencontrés, t'étais Paris Ouest, après t'es passé chez Bouygues et maintenant de Mathieu et Barre. Est-ce que t'as senti qu'il y avait un accompagnement, quelque chose pour faire en sorte que la parole des femmes ingénieures soit entendue?
Non, aucun accompagnement. Non, c'est...
Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour la génération d'après? S'il faudrait leur proposer quelque chose.
Mais peut-être que finalement, alors que j'étais contre quand j'ai commencé ma carrière, arriver à des systèmes de quotas, peut-être tout simplement de se dire qu'il faut effectivement laisser plus de place à des femmes, à des postes importants, avec équivalence de compétences, évidemment.
Bien sûr.
La compétence doit être là. Mais effectivement, obliger un certain nombre de quotas pour peut-être forcer les choses. Sinon, peut-être que ça ne bougera très très doucement, on va dire comme ça.
Oui, parce qu'au fond, quand on se pose des questions, je suis pas sûre qu'il y ait tellement de boîtes qui ont dans leur comex une femme. Et donc c'est vrai que une femme ou des femmes, bien sûr. Et donc c'est vrai que ça donnerait aussi un bel exemple, non?
Ah oui, il y en a, mais très 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 rare en fait de femmes dans
bon,
les comex.
Bon, à part Emmanuel Soufflet chez Bouygues, on en connaît d'autres?
J'avoue que non.
Non, mais il y en a peut-être d'autres qui se cachent.
Oui.
Donc du coup c'est quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que les équipes dirigeantes des boîtes de BTP acceptent de faire rentrer en leur sein du COMEX des femmes.
Je pense qu'il faut effectivement que les...
Donc une sélection positive.
Il faut qu'il y ait une sélection positive. Il faut peut-être aussi, si on balaye aussi devant notre porte, que nous, on force un peu plus la porte, peut-être. Il faut
d'accord.
être contente aussi.
Et donc, justement, qu'est-ce qu'il faudrait ? Parce que est-ce que c'est pas quelque part, mais j'exagère en disant ça, mais pourquoi pas, je sais pas, des cours de coaching pour pouvoir aller à la bataille. Hein.
Peut-être, oui, peut-être qu'effectivement, faut qu'on arrête avec certains syndromes très féminins et qu'on soit coaché pour effectivement oser un peu plus comme le font peut-être les hommes, sans se poser moins de questions, voilà, tout simplement.
Alors, aujourd'hui, on est quand même dans un système d'entreprise qui est un peu compliqué, hein, puisque on sait très bien qu'il y a une partie des projets qui sortent d'une manière difficile parce que les prix sont élevés, pas élevés, la matière première, la guerre, comme ça d'une manière générale, quel que soit le projet. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des incidences importantes du point de vue commercial sur ce qui se passe dans le monde, hein, sur les prix?
Alors, pour l'instant, les prix, jusqu'à présent, ne bougeaient pas trop. Là, on commence à avoir effectivement une incidence au niveau financier qui commence à arriver. Donc, je pense que les prix vont effectivement monter dans les jours à venir. Ce que je constate, moi, c'est que les appels d'offres sont de plus en plus longs. Le timing est de plus en plus long. Donc, effectivement, peut-être que c'est lié à ça. Peut-être qu'effectivement, les coûts des maîtres d'ouvrage ne changent pas et qu'effectivement, nous, nos coûts de travaux commencent à augmenter.
Et la main-d'œuvre ?
Et la main-d'œuvre augmente de toute façon chaque année un peu plus. Donc, effectivement,
Alors, qu'est-ce que c'est le modèle vertueux pour essayer quand même de sortir les appels d'offres ? Parce qu'on a quand même l'impression, surtout dans l'habitat, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, puisque tu es d'abord directrice commerciale Île-de-France Habitat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, je suis d'accord, les projets mettent très, très, très longtemps à sortir déjà, nous, de notre côté, puis très longtemps à sortir en appel d'offres et avec 3, 4, 5 euros, remise de prix, modifs, etc., etc. Quelle serait la bonne méthode, hein?
Bah, une qui existe déjà, une conception. Moi, je suis pro les conceptions réalisation. Je pense que c'est un bon compromis, en fait, avec, puisque ça nous permet, en fait, de travailler en amont, nous, entreprise, avec vous, maître d'œuvre et architecte.
Je veux bien, on en parlera. Dans une deuxième, non mais on peut en parler maintenant, mais donc ça c'est un des leviers, mais j'aimerais bien qu'on fasse une deuxième interview sur le sujet, si tu en es d'accord. Mais du coup, bon, alors les conceptions réalisation, mais encore une fois, on a des maîtres d'ouvrage qui sont contre, voilà, parce qu'ils veulent faire en interne travailler leurs équipes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier?
Après, c'est effectivement peut-être être un peu plus discipliné tout ce temps qu'on est pour respecter des délais, des prix, ou voilà. Mais il n'y a pas tant que il y aura.
C'est quoi les marges qui sont parfois trop fluctuantes?
Les marges
entre les fournisseurs, les poseurs, les entreprises, les sous-traitants et les EG.
Je pense pas qu'il y ait énormément de marge. D'accord. Pour tout le monde, en fait. Non, je pense que vraiment, on est. Ce qui est vrai, c'est que peut-être être un peu plus flexible par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que, sans parler de ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu à un moment donné, il y a eu le Covid, il y a eu des voilà, être toujours en lien avec ce qui se passe permettrait peut-être d'assouplir un peu les façons de faire et peut-être les.
C'est-à-dire
prix.
qu'il y a trop de méthodologie qui est, on va dire, dans des cases. Qui fait qu'on est trop, on travaille d'une certaine manière avec moins de souplesse.
Je pense, oui. On a toujours le fameux, on a toujours fait comme ça et quand même assez prégnant encore aujourd'hui.
Mais c'est incroyable, non? Moi, je dis toujours aux équipes de l'agence, chaque jour est un nouveau jour, c'est-à-dire l'obligation absolue, de considérer que chaque jour amène son lot de réflexion, d'avancement, de souplesse et de prendre. on va dire, de prendre en considération tous les événements périphériques qui font que on est obligé de reconfigurer son esprit. Alors, faut pas être outrancière non plus. Je voudrais pas que les auditeurs pensent que chaque jour j'ai besoin d'un nouveau jour pour refaire le monde. Mais qu'est-ce qui fait que on a encore cette rigueur, cette obsession de rentrer dans la case, hein?
Après, on est tous en entreprise, en tout cas beaucoup, des ingénieurs, donc on aime bien tout ce qui est carré, donc il faut rentrer dans le cadre. Et le cadre est nécessaire aussi, de toute façon.
Bien sûr, évident.
Mais donc peut-être que ça nous rassure tous d'être dans un cadre et qu'on a du mal à en sortir. Mais il faudrait de temps en temps, effectivement, pousser un peu tout ça.
Alors, est-ce que justement le hors-site et ou la préfabrication ne donne pas des obligations quelque part d'être dans un certain cadre, mais un autre cadre,
hein? Le hors-site nous a obligés effectivement à revoir pas mal notre façon de faire et de penser.
Ça se fait beaucoup dans l'habitat, non?
Oui, on en fait.
Tu peux avoir quelques exemples,
hein? Par exemple, tout ce qui est des foyers où il faut construire vite, et il faut construire bien et vite, hein, je rajoute toujours le bien.
Merci.
Le hors-site nous permet ça. Le vertueux nous permet ça aussi. Voilà, donc ça nous permet de construire vite, bien, vertueux. Voilà, donc s'adapter.
Bon alors, on est obligé de finir cette interview avant de parler de conception-réalisation sur cette idée extrêmement optimiste, hein, du vertueux.
Oui.
Mais je suis impatiente de connaître l'opinion d'Aurélie sur les conceptions-réalisations.
Avec plaisir.
Merci chers auditeurs et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.